Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Eh bien, bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Campus pour le magazine Lilin Info. Donc aujourd'hui, on va parler de bilan carbone, pas n'importe quel bilan carbone puisqu'il s'agit de celui de l'Université Lilin. Et donc, on va parler de ce sujet qui s'inscrit dans les logiques de développement durable, bien sûr, avec Monsieur Jean-Louis Bizalion, avec Monsieur Louis Bizalion, donc qui est chargé de mission justement de développement durable à l'Université Lilin. Bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on se voit maintenant, hein, ça
Exactement.
A évolué. Et donc cette mission prend forme et parmi ces rendez-vous maintenant, il y a des bilans qui sont faits donc, pour voir si, au-delà des théories, la pratique suit, c'est ça ?
Alors c'est à peu près ça. À vrai dire, le bilan carbone, c'est plutôt la première pierre à l'édifice parce que c'est une bonne porte d'entrée pour une démarche de développement durable dans la mesure où ça nous donne un état des lieux initial un petit peu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on mesure à un instant T les quantités de gaz à effet de serre qui sont liées à l'activité de l'université. Et à la suite de ce bilan, on peut mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça permet d'évaluer l'efficacité de ce qui est mis en place.
Donc ce bilan, il a été réalisé ?
Donc là, on a réalisé le premier bilan carbone de l'université. Et donc on a des premiers résultats qui permettent de se faire une idée de l'impact environnemental du campus.
Alors c'est vrai que d'une université à l'autre, selon peut-être aussi l'âge de sa construction, etc., il peut y avoir évidemment des paramètres qui handicapent.
Alors effectivement, l'idée c'est pas de désigner un campus plus polluant qu'un autre, hein. L'idée c'est que chaque campus a ses propres problématiques qui peuvent être liées effectivement à l'âge de ses bâtiments, à l'âge de ses réseaux d'eau, effectivement, à un certain nombre d'éléments. Mais l'idée c'est de prendre une photo du campus en particulier et de partir de cet état des lieux pour l'améliorer.
Donc pour arriver à cet état des lieux, je suppose qu'avant, il y a le projet d'état des lieux dans lequel on imagine un peu tous les paramètres nécessaires pour faire ce bilan et après on se donne les moyens de le réaliser. C'est compliqué quand même, non ?
Alors à la base, l'université a déterminé comme objectif de réaliser ce bilan carbone. Après, le contenu d'un bilan carbone, ce n'est pas tout à fait l'université qui l'a décidé dans la mesure où c'est un outil qui a été créé par l'ADEME, donc l'Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie. Donc elle a créé l'outil bilan carbone pour pouvoir évaluer donc les émissions de GES liées à une activité particulière. Et donc c'est un même outil qui est appliqué de la même façon à beaucoup beaucoup d'organisations différentes. Ça permet justement d'évaluer les différents établissements selon les mêmes critères.
Est-ce que dans ces critères, il y a des éléments qui sont plus sensibles que d'autres ? Est-ce que l'université a des spécificités et qui font que dans certains domaines, a priori, on est très mauvais ?
Alors, toutes les universités, en général, se retrouvent dans leur profil carbone avec le poste déplacement qui est beaucoup plus important que les autres. En l'occurrence, à l'Université Lille 1, on a obtenu un post-déplacement qui représente 69% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité de l'université. Donc c'est gigantesque. On retrouve à peu près ce résultat sur l'ensemble des campus où un bilan carbone a été réalisé. Et ça, effectivement, c'est dû aux nombreux déplacements des nombreux étudiants et personnels qui viennent travailler sur le campus. Ça, c'est à peu près la moitié de ce poste. Et puis, on a aussi un certain nombre de ces déplacements qui sont liés au voyage en avion des chercheurs qui partent faire des colloques à l'étranger, par exemple, ou au déplacement des étudiants internationaux. Et l'Université Lille 1 a une politique engagée en faveur de l'ouverture à l'international et accueille 20% d'étudiants internationaux, ce qui explique que ce poste soit si important.
Alors, si important, voire incompressible?
Alors, a priori, on pourrait dire qu'il est incompressible, dans la mesure où il n'est pas du tout question de dire « bon, bah, c'est terminé, on n'accueillera plus d'étudiants internationaux », bien entendu, parce que c'est aussi du développement durable que d'accueillir des étudiants internationaux, ça s'appelle du co-développement. Et donc, du coup, il n'est absolument pas question de revenir sur cette politique, mais il est question de... d'observer tous les postes et de trouver des pistes d'action, des pistes d'amélioration qui ne sont pas forcément sur la réduction de l'accueil des étudiants internationaux.
Donc si je comprends bien, on a des données qui sont à l'état brut et après on les interprète et on les met en perspective avec des priorités.
Voilà, on les priorise. En fait, on distingue un certain nombre de postes qui sont incompressibles et puis on distingue aussi un certain nombre de postes sur lesquels il est possible d'agir. Et en fonction du potentiel d'économie de GES, on va choisir, et puis aussi du montant qu'il faut investir pour pouvoir réduire les émissions, on va décider d'agir prioritairement sur tel ou tel poste du bilan carbone.
Donc ce bilan, il a été publié, et il a été étudié, et il est déjà en train d'être analysé pour voir sur quels paramètres on peut travailler.
Alors effectivement, le bureau d'études qui a travaillé sur la réalisation du bilan carbone nous a rendu son rapport. Ce rapport a été présenté la semaine dernière à l'occasion d'une réunion publique à l'ensemble des usagers du campus qui souhaitaient y assister. Et dans le rapport, il y a un certain nombre de propositions d'action. L'enjeu actuel est donc d'étudier ces propositions qui ont été faites par le bureau d'études et puis d'en sortir ce qui est opportun à mettre en œuvre sur le campus de Lille 1 et puis d'en sortir ce qui n'est pas opportun à mettre en œuvre.
Donc je suppose que dans ces coûts, enfin dans ces problématiques de bilan carbone, il y a des choses liées à l'énergie, le chauffage, des choses comme ça, non ?
Alors effectivement, les postes qui ont été étudiés donc dans le cadre du bilan carbone sont les déplacements. Je vais aller dans l'ordre de leur importance. En second lieu, donc, vient le poste énergie, donc qui correspond aux consommations d'énergie pour le chauffage et l'électricité des bâtiments. On a aussi un poste qui s'appelle immobilisation patrimoine, qui est constitué des constructions de moins de 30 ans, qui sont donc amorties pendant 30 ans. Donc c'est l'impact vraiment de la construction, du chantier. Et puis après, ces postes-là viennent l'impact des déchets, l'impact des transports, par exemple les livraisons qui sont faites sur le campus, l'impact également des biens qui sont achetés par l'université. Quand l'université achète par exemple un stylo, il faut produire ce stylo, il faut l'acheminer jusqu'au campus, et donc ça se traduit en termes d'émissions de GES. Et voilà.
Donc c'est vrai que par exemple pour une université à Aix-en-Provence, c'est plus facile d'avoir un bon bilan énergétique que Lille 1, non ?
Alors, a priori, on pourrait penser ça, mais c'est aussi relatif à l'âge des bâtiments. Donc, il suffit que les bâtiments soient, ou par contre à la conception des bâtiments, il suffit que des bâtiments soient moins bien conçus à Aix et ils seront moins performants et du coup, ils se traduiront par un bilan carbone moins positif.
Donc, pour améliorer ce bilan, on peut voir la construction des nouveaux, forcément, qui déjà correspondent à des règles. Je suppose qu'il y a des normes bien plus évidentes, bien plus puissantes, plus fortes, contraignantes, on va dire, qu'il y a 30 ans.
Effectivement, la réglementation est beaucoup plus drastique en ce qui concerne les constructions immobilières. Et tous les bâtiments qui seront construits, dont le permis de construire est déposé après le 1er janvier 2012, comme la plupart des bâtiments qui vont être nouvellement construits sur le campus dans le cadre des opérations campus. Donc, obéissent à la réglementation thermique 2012, qui est effectivement très très exigeante.
Donc là, on peut dire qu'on n'a pas de mérite, vu qu'il y a des règles. à la construction. Par contre, sur l'ancien et l'amélioration, la réhabilitation des vieux sites, là, il y a des choses à faire.
Alors, on a quand même du mérite, parce que respecter la réglementation thermique n'est pas si simple, parce que ça a des répercussions sur les budgets de construction. Et donc, c'est pas forcément plus simple. Enfin, je pense pas que ça facilite la vie des personnes qui travaillent
dans le secteur du BTP. Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de mérite, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc
voilà, c'est obligatoire. On n'y échappe pas. Sauf si on s'arrange pour déposer le permis de construire avant le 1er janvier 2012. Et je pense que beaucoup se bousculent aujourd'hui. Et non, par contre, effectivement, l'enjeu le plus compliqué, ça concerne le passif, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments qui ont été construits ces dernières années et qui représentent des émissions importantes.
Alors justement, ces bâtiments qui sont prévus pour une durée de vie, mettons, de 30 ans, est-ce qu'effectivement, au bout de 30 ans, on les abat, on les reconstruit ?
Alors la période de 30 ans dont j'ai parlé, ce n'est pas la durée de vie du bâtiment, heureusement, parce que ça serait un petit peu court et pas très durable. C'est la durée de l'amortissement d'un bâtiment dans le cadre d'un bilan carbone. C'est-à-dire qu'on étale sur 30 ans les émissions qui sont liées à la construction du bâtiment.
Quels sont les prochains chantiers qui sont déjà, on va dire, en préparation, hein, qui sont liés à cette étude ?
Alors, pour l'instant, tout ça est en réflexion, et donc en discussion avec les directions de l'université. Mais au vu des résultats du bilan carbone, on peut s'imaginer que l'université va avoir beaucoup de travail en ce qui concerne les déplacements. Et donc sa capacité d'intervention sur les déplacements des usagers est quand même assez limitée, parce que ça relève quand même de la liberté individuelle de chacun des usagers du campus de se déplacer comme il l'entend. On a quand même quelques marges de manœuvre dans ce domaine-là, et il y a un certain nombre d'engagements qui ont d'ores et déjà été pris, notamment dans le schéma d'aménagement du campus. Donc c'est tout ce qui concerne la piétonnisation du campus, ce qui concerne la réalisation d'aménagements cyclables ou piétons. Voilà.
Sinon, est-ce que dans l'université, on peut aussi mobiliser les ressources de la recherche, par exemple, pour améliorer des procédures ou des procédés ou des constructions en fonction, pas forcément des normes imposées, mais en fonction de ces études qui peuvent amener elles-mêmes à des nouvelles normes?
Alors effectivement, l'université, par rapport à d'autres acteurs qui réalisent leur bilan carbone, a beaucoup de chance d'avoir en ses murs beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ces thématiques-là. Et ça peut effectivement être une valeur ajoutée dans la recherche de solutions. Dans la mesure où on a des chercheurs à l'université Lille 1 qui travaillent sur les thématiques de la performance énergétique et thermique des bâtiments.
Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus. Nous sommes avec Louis Bizalion, donc chargé de mission de développement durable à Lille 1. L'université Lille 1 qui a des secteurs donc de recherche sur le développement durable, et ces secteurs de recherche sont souvent, j'allais dire, enviés, exploités parfois même par des gens qui sont à l'étranger et qui cherchent des solutions pour leur pays. Hein. C'est vrai qu'il y a une mission d'aide, d'entraide au niveau international auquel l'Université de Lille participe.
Oui.
Donc cette réflexion actuelle sur les économies d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Est-ce qu'en période de crise, donc de difficulté, la mise en œuvre des plans n'est pas un peu en danger, sinon ne doivent pas s'infléchir ?
Oh, ça, c'est une question très très difficile, dans la mesure où la crise effectivement réduit la capacité d'investissement. Alors à l'université, cette capacité d'investissement, elle est quand même assez faible. L'université est pauvre. D'un autre côté, la crise, elle devrait nous inciter justement à agir dans la mesure où agir, c'est faire des économies. C'est-à-dire que quand on investit dans les bâtiments pour améliorer leur performance énergétique et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, par ailleurs, on obtient aussi des réductions sur les factures d'énergie. Donc on fait des économies, en fait. Mais les économies, on ne les retrouve pas tout de suite. Donc il faut investir à court terme et récolter des économies à long terme. C'est toute la difficulté, effectivement, en période de crise.
Donc, effectivement, on peut se pencher sur l'investissement à faire et la rentabilité à long terme. Ça, ce sont des calculs, je suppose, qui sont faits.
Effectivement, oui, c'est le genre de calculs qui sont faits. C'est le genre d'études qui sont menées sur le patrimoine de l'Université Lille 1. On a fait un certain nombre d'études, donc des audits énergétiques qui permettent de repérer des opérations à mettre en œuvre, qui permettent d'améliorer les performances énergétiques. Et dans le cadre de ces études, on calcule bien entendu les économies d'énergie, et donc les économies sur les factures qui sont générées. Et ça permet donc au bureau d'études de nous indiquer les temps de retour sur investissement de chacune des opérations qui nous proposent. Et donc nous de hiérarchiser les différentes opérations à réaliser.
Est-ce que ce bilan est publié, diffusé auprès des personnels, voire des étudiants? Et après, est-ce que ceux-ci peuvent éventuellement infléchir leur comportement, les amener à avoir une réflexion sur leur vie au quotidien et voir en quoi ils peuvent améliorer les choses à Lille?
Alors le bilan carbone est aussi réalisé pour être publié. Donc réglementairement, on est tenu d'afficher les résultats du bilan carbone de l'université. Alors c'est une obligation réglementaire, mais c'est aussi très intéressant de diffuser ces résultats parce que ça permet de solliciter les usagers, donc de les inciter d'une part à changer leur comportement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les déplacements où c'est pour beaucoup entre leurs mains, mais ça permet également de les solliciter pour avoir leur avis sur les actions qu'il est possible de mettre en œuvre à l'université, parce que c'est quand même un campus très très grand. Et le retour des usagers peut être très intéressant pour agir.
Est-ce qu'éventuellement ces usagers peuvent proposer des idées, sinon des solutions ?
Alors exactement, nous pour diffuser les résultats du bilan carbone, on a publié une lettre d'info dans laquelle on présente donc l'ensemble des résultats. Et dans cette lettre d'info, on fait appel aux idées donc des usagers. Et donc on a mis en place une adresse mail à laquelle donc les usagers peuvent écrire pour faire remonter leurs remarques, leurs avis sur la façon dont l'université pourrait agir pour réduire son empreinte environnementale. Donc cette adresse c'est dvpt-durable@unif-lille1.fr.
Alors j'ai vu un reportage récent à la télévision qui montrait une société qui mettait à disposition de clients hein, des animaux comme des chèvres, des moutons pour tondre, enfin voilà, pour aider à l'entretien et dans le cadre d'un projet de développement durable. Donc à Lille 1, il y a longtemps qu'on a eu des expérimentations, où on en est exactement ?
Alors là, actuellement, on a effectivement des animaux qui sont présents sur le campus pour pâturer. Et donc, l'année 2012 a été donc la deuxième année où ce dispositif a été reconduit. Et donc là, on est au mois d'octobre. Ça veut dire que les animaux devraient quitter le campus avant la fin du mois, dans la mesure où il n'y a plus d'herbe à tondre passé le mois d'octobre. Et voilà, donc c'est une opération qui permet déjà de limiter les tontes mécaniques, donc qui représentent des émissions très très importantes. Ça permet surtout d'avoir des parcelles qui sont entretenues de façon différente, et donc une parcelle pâturée par rapport à une parcelle qui est tondue voit une biodiversité plus importante se développer. Et donc c'est très intéressant pour la biodiversité, et puis c'est aussi très intéressant pour la qualité de vie des usagers du campus qui ont la chance de pouvoir être en contact avec des animaux, ce qui est quand même assez rare en ville, et puis ça attire pas mal de gens sur le campus, ça ouvre un petit peu le campus.
Est-ce qu'en fin de saison on peut préparer les méchouis?
Surtout pas.
Donc Louis Bizalion, on l'a dit, 2013, de nouvelles directives sont appliquées forcément. Tout cela, ça relève au-delà des directives d'initiative et d'abord du, d'une réflexion sur la responsabilité. Une université, c'est énorme, on peut dire qu'il y a quand même un public très important, donc tout ça, ça pèse sur une cité et voire sur une région.
Oui, effectivement, l'université, l'impact important de l'université s'explique par sa dimension. Hein. Il y a 90 bâtiments, il y a 110 hectares de campus, il y a à peu près 20 000 étudiants qui viennent chaque année étudier ici, et puis il y a 2500 personnels, quoi, si on arrondit. Donc c'est effectivement une organisation qui est assez vaste, et ça explique son impact environnemental important.
C'est une ville à elle seule.
C'est un grand quartier, c'est une ville dans la ville.
Bon, ça a peut-être quelque chose ou rien à voir. Hein. Le grand stade, ça a créé, en termes de développement durable, de nouveaux paramètres ou pas ?
Alors, ça peut paraître très contradictoire parce qu'on se demande un petit peu le rapport que peut avoir un grand stade avec une démarche de développement durable. En fait, la construction du grand stade a eu des répercussions sur la démarche de développement durable. Il y a certaines répercussions qui sont assez négatives dans la mesure où pour construire certains parkings temporaires, il a fallu abattre certains arbres. Voilà, donc c'était pas très positif sur le point environnemental. Mais d'un autre côté, la construction de cet édifice a incité Lille Métropole à construire par exemple des pistes cyclables qui permettent de relier le centre-ville de Lille maintenant jusqu'à la cité scientifique. D'un autre côté, ça a aussi permis d'avoir une offre de stationnement à l'extérieur de l'anneau Langevin, donc à l'extérieur du cœur du campus, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui, dans la mesure où ces parkings peuvent être utilisés par les usagers de Lille 1, en dehors des événements bien sûr. Et donc tout ça... Cette offre supplémentaire de parking permet de réduire la fréquentation par les automobiles du cœur du campus et donc des parkings intérieurs, donc c'est plutôt positif. Alors c'est difficile de faire le bilan de tout ça. Mais...
Donc on peut dire que ce sont des effets indirects parce qu'a priori ces équipements ne sont pas intégrés au patrimoine de Lille, donc ne sont pas dans les paramètres.
Effectivement, hein, l'objectif de la construction de ces parkings, ils n'ont pas été construits dans le cadre de la démarche de développement durable de l'université. C'est ce qu'on appelle un effet externe positif pour une fois.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un bilan carbone puisse être l'objet d'animations particulières, de rencontres, de réunions, voire d'échanges avec l'international, avec d'autres universités, d'un colloque, pourquoi pas, qui se passerait à Lille ?
Alors, avec des universités internationales, certainement, même si ça n'est pas prévu. Alors, la particularité du bilan carbone de l'Université Lille 1, c'est qu'il a été réalisé en partenariat avec l'ensemble des universités de la région Nord-Pas-de-Calais et de l'École nationale supérieure de chimie de Lille. Donc, c'est une étude qui a été portée par le PRESS, l'Université de Lille Nord-de-France. Et donc du coup ça donnera lieu certainement à des actions qui seront mises en œuvre de manière commune par les établissements concernés. Et en tout cas le groupe de travail qui réunissait les référents donc bilan carbone de l'ensemble des établissements va continuer à se réunir pour échanger sur les différentes actions qui sont mises en œuvre dans les différents campus et de voir quelles opérations peuvent être transposées, quels échanges de bonnes pratiques peuvent s'opérer entre les personnes en charge de ces politiques.
Donc si j'ai bien compris, Louis Misalion, toutes les universités de la région en même temps, avec le PRESS, ont réalisé cette étude cette année.
Exactement, donc chacune des universités va disposer donc d'un bilan carbone propre à son campus, individuel, et un bilan carbone va également être produit qui va consolider l'ensemble des bilans carbone de l'ensemble des établissements et qui constituera en fait donc le bilan carbone des universités du Nord-Pas-de-Calais.
Alors Louis Bisalion, si vous aviez un vœu à formuler pour 2013 ?
Ah, c'est que ce bilan carbone soit suivi de beaucoup d'opérations mises en œuvre et que dans 3 ans, quand on renouvellera le bilan carbone, on se rendra compte que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué.
Merci beaucoup.